Le service des petits Mickey pour la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui présente...
Franquin par Franquin. Proposé par Fred Janin et Nicolas Van Doren.
C'est mal foutu, mais ça donne bien.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'André Franquin.
Oui, oui, oui.
Franquin, dessinateur bruxellois hors pair, et un des plus extraordinaires auteurs de bande dessinée de sa génération.
Bon, en fait.
Reconnu, admiré, souvent copié, jamais égalé. Franquin, après avoir repris au pied levé la série Spirou, chez Dupuis, que JG avait lui-même reprise à Robvel, s'est montré plus créatif et talentueux que ses prédécesseurs. Franquin s'est révélé particulièrement surdoué. Il est le créateur du Marsupilami, Champignac, Zorglub, Zantafio, Sécotine, Modeste et Pompon, Le Petit Noël, Les Idées Noires, Les Tifous et bien d'autres.
Oui, 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 oui.
Mais surtout, Gaston Lagaffe,
bon, enfin.
De loin son personnage préféré. Tous ceux qui ont connu Franquin diront que son talent et son génie n'avaient d'égal que sa modestie. Il n'aimait pas se mettre en avant.
Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Ou parler de lui.
Je plaide coupable.
Au milieu des années 80, Numa Sadoul, un jeune homme passionné de BD, arrive astucieusement à convaincre Franquin de lui donner une longue, longue, très très longue interview sur sa vie et son œuvre.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries ?
Les entretiens vont durer plusieurs jours et Numa Sadoul en tirera un livre intitulé « Et Franquin créa la gaffe ».
Bon, enfin.
Les enregistrements sur cassette audio de ces conversations n'ont jamais été offerts au grand public. Vous allez pouvoir les entendre pour la première fois.
Je suis extrêmement content,
Numa Sadoul,
qu'on puisse enfin exhumer ce qui était sur ces cassettes et qu'on le livre, en partie, du moins, aux fanatiques, aux amis, aux amoureux, aux admirateurs, aux auditeurs aussi.
JG. Ah ben JG, c'est merveilleux, évidemment. C'est aussi, c'est comme Hergé, mais en plus proche. C'est un grand frère, c'est type d'une générosité étonnante. Et c'était vraiment le vrai début du métier. Pour moi, c'est grâce à lui, évidemment.
Il est impossible de parler de Franquin sans évoquer Joseph Gilin, alias JG, qui lui a véritablement mis le pied à l'étrier, ainsi qu'à Willy Maltête, alias Will, et Maurice de Bever, alias Maurice.
Oui, 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 oui.
En 1946, JG a accueilli ses tout jeunes dessinateurs en herbe dans sa maison familiale à Waterloo, créant ainsi la bande des quatre. Écoutons cette archive de la RTBF où JG répond aux questions de Georges Renoy.
Oh, j'habitais Waterloo, alors Willy était chez moi depuis quel âge, toi? Je t'ai donné le biberon, quoi, non?
Presque.
Alors, eux, ils cherchaient vaguement à être ensemble parce qu'on se connaissait. Et ils ont fureté dans le coin, ils ne cherchaient pas beaucoup un appartement, une vitoune quelconque pour loger. Finalement, ils sont collés dans mon grenier. Alors c'était un endroit alors là. Hein. Enfin, ils dormaient pas beaucoup, du moins la nuit.
Ils travaillaient
surtout, rigoler. Donc ça ne commençait pas avant une heure d'après-midi à travailler, sérieusement. Oui.
Est-ce que tu as conscience d'avoir appris une technique de la bande dessinée à son contact?
Numa Sadoul.
Ou est-ce que c'est venu tout seul au fur et à mesure que tu travailles?
Écoute, je crois que dans une histoire comme ça, tout le monde apprend terriblement. Il est certain que Maurice m'a appris beaucoup. Peut-être que j'ai appris une certaine chose à Maurice, je ne sais pas. Il faudrait que ce soit lui qui le dise.
Eh bien, il va le dire. Vas-y, Maurice.
Je suis convaincu maintenant que le fait d'avoir pu travailler à ses côtés a été pour moi beaucoup plus utile que 20 ans d'académie, c'est certain.
C'est grâce à Joseph que j'ai petit à petit peu développé un style plus ou moins reconnaissable, mais sans lui, je n'y serais sûrement pas arrivé. Parce que je n'avais en plus aucune école, moi, les autres gars avaient fait de l'école d'art, Saint-Luc, que c'est,
je sais
pas, moi, rien de tout ça.
Gina nous a appris beaucoup et nous avons appris certaines choses à Gina. Il y a eu un échange extrêmement. Il y a cette bête histoire simplement que Gina dessiner les voitures comme un cochon, avant que nous arrivions. Et il a vu certains d'entre nous dessiner des voitures, et il s'est mis à dessiner les voitures plus sérieusement. C'était vraiment, c'était choquant dans son, pour une histoire comme Ballardy, par exemple. Il y a des voitures qui sont des masses incroyables, avec des roues énormes. C'est vraiment dessiné comme ça, parce que la mécanique, il s'en foutait totalement. Il avait raison, d'ailleurs. On accorde beaucoup trop d'importance à ça. À moins que ce soit pour en...
Pour faire du réalisme.
Pour en tirer un effet amusant.
Ah, c'est eux qui m'ont appris le métier. Quand ils m'ont rencontré, je ne savais pas bien ce que c'était que la bande dessinée. Ils m'ont ouvert les yeux. Je travaillais comme un somnambule, moi. C'est là que mon génie. Non, mais ils m'ont vraiment initié à la bande américaine, par exemple, que je connaissais très peu. Et alors, le gros problème, c'est que devant des types qui avaient 10 ans de moins, il fallait que je me tienne correctement. C'est à partir de ce moment-là que je dessinais correctement. J'étais surveillé, j'examinais mes planches. On s'entraînait l'un l'autre, on faisait des...
Oui, c'est ça qui est important.
Des heures et des heures de croquis.
Avec Jigé, la bande des quatre partait du réel, dessinait beaucoup d'après nature, comme nous l'explique Philippe Capard, spécialiste de bande dessinée.
Il y a Jacques Ossio qui était une personne... qui a le même âge qu'André Franquin, qui était à l'école avec lui, et il se souvient qu'il y avait des modèles vivants, déjà à Saint-Luc, mais c'était des hommes avec un cache-sexe, et c'était toujours le même homme, qui était un gendarme, à la retraite ou pas, je ne sais pas, mais qui était toujours là. Et donc il y a l'idée qu'il n'y avait peut-être pas une motivation suffisante pour s'attarder entre ça et un plâtre, et c'est Joseph Gillin qui l'a ramené ailleurs, au centre de Bruxelles.
C'était plus un gendarme.
Où là, voilà, il y avait des femmes qui posaient. Et le fait d'avoir de dessiner des corps, est une excellente vitamine à dessiner. Oui. Et je pense que quand Gillin a amené Maurice et André dessiner le modèle vivant, ça les a boostés.
Nous faisions des séances de dessin.
De croquis.
Des heures par jour, certainement 2-3 heures par jour. Et on allait même à Bruxelles dans des salles de dessin modèles vivants. Et vraiment, on a fait là une collage extraordinaire. On a fait
ça, c'est grâce à lui, oui. Ça, par exemple. Parce que lui, il n'est pas seulement un dessinateur de bande dessinée, c'est un dessinateur tout court. Enfin, il peint, il sculpte, etc. Et alors, ça élargit notre conception du dessin. Nous qui n'étions que dessinateurs de petites caricatures. Quoi. Ça, c'est intéressant. Ça donne une base de dessin plus solide.
S'il y a comme c'est une sorte de religion, dans le fond. Pourquoi on dessine? C'est parce qu'on se complaît à dessiner pour soi-même. C'est le petit jeu qu'on renouvelle tous les jours, de s'amuser à dessiner, bien sûr.
Mais moi, j'ai déjà reçu des gens qui me disait, vous avez travaillé chez Gillin, moi je voudrais bien travailler avec vous. Tout le monde n'est pas Gillin, n'a pas cette ouverture d'esprit, n'est pas aussi, aussi large de vue que la femme de Joseph à ce moment-là, qui admettait chez elle tout à coup 2-3 sauvages, qui se mêlaient qui étaient là tous les midis, etc.
Pour Franquin, Jigé, c'est aussi la reprise de Spirou.
Eh ben voilà.
Comme il l'explique au micro de Michel Cédric dans cette archive RTBF.
Jigé, juste après la guerre, voulait recommencer une biographie qu'il avait faite. Et il voulait aller sur place, un souci louable d'ailleurs, une biographie qui lui avait fait un grand succès. Et il voulait recommencer cet album en se servant, en allant dans le pays, parce que pendant la guerre, on n'avait pas pu évidemment se déplacer, et il voulait aller en Italie pour aller prendre les décors d'Après Nature et refaire cet album d'une façon plus sérieuse. Et alors, Gillin est un énorme talent et il a une tendance à se disperser un peu, il était un peu nomade au point de vue bande dessinée, c'est-à-dire qu'il allait de l'une à l'autre. Et il ne pouvait pas s'astreindre, il a pu difficilement s'astreindre tout au long de sa carrière à conserver la même bande dessinée et à rester des années à faire la même chose. Hein, de même qu'il déménageait assez souvent, il changeait assez souvent de héros et de... de travail. Et alors, il s'est débarrassé de ses bandes. Il était le principal, il était la cheville ouvrière du nouveau Spirou, du Spirou d'après-guerre. Et il dessinait là-dedans Jean Valardi, il dessinait des biographies, il dessinait Spirou. Et encore bien d'autres choses. Et il faisait plusieurs séries. Et il nous a donné ces séries, il a distribué ces séries aux débutants que nous étions. On a fait un vague essai, et puis nous sommes partis carrément. Nous sommes foutus à l'eau, là. Et nous avons commencé. Pape a dessiné Valardi, moi j'ai dessiné Spirou. Lucky Luke était déjà le personnage de Maurice. Il a commencé son Lucky Luke. Et voilà, c'est de ces années-là que ça date.
Et qu'en pense Maurice ?
Ouais, il était sûr de lui, vous savez. Il s'autocritiquait énormément, comme il l'a toujours fait pendant toute sa vie, c'est incroyable. Il faisait critiquer son propre travail, mais en réalité, il était bien content qu'on lui donne ce travail-là. C'était quand même un personnage qu'on ne donne pas au premier venu. Hein. C'était parce que tout le monde était d'accord sur le talent de Franck, hein, qu'on lui a donné ça.
Retour en 1985 avec Numa Sadoul et Franquin.
Pour le contexte chronologique, le premier que tu as fait, c'était l'Almanach.
C'était l'Almanach, oui, 45. C'était l'histoire du tank. C'était tout de même, la libération n'était pas tellement loin, c'était inspiré par la libération.
Ça anticipait sur la libération, ça suivait.
Ça suivait, évidemment.
C'est par le camp, ça, 45.
Oh, 46, 45, 46, tu sais les dates, je suis brouillé.
Et tu l'as fait 46.
Oui, 46, c'est ça.
Et c'est l'Almanach 47.
C'est l'Almanach 47, oui, exact. Qui est une petite pièce de collection maintenant.
Que j'ai d'ailleurs, c'est vrai, je ne l'ai pas apporté, parce qu'il est un peu abîmé. Et ce tank, ça avait un rapport avec ce qui précédait ou pas ?
Avec ce qui précédait, c'est la première série, rien ne précédait.
Non, mais je veux dire, ce qui précédait de Gilin.
Ah non, pas du tout, non. Non, ça n'avait aucun rapport, non. C'était vraiment fait sur le côté, alors que Gilin, lui, continuait dans le journal. Hein. Pendant ce temps-là, Gilin dessinait toujours Spirou dans le journal.
Donc c'était un test, ce tank.
C'était un test, oui.
Et ça a marché, apparemment.
Oui, ça a eu du succès, le tank, auprès des éditeurs, etc., auprès du petit milieu... Ça a bien donné.
Mais apparemment, tu avais essayé de conserver le style imprimé par Gilin.
Pas tellement dans ceci, non. Je serais curieux de le revoir. Oui, mais il y avait tout de même une influence Gilin, parce que je savais que c'était destiné un jour à reprendre le. Il en était déjà question. Ceci est une forme très inspirée par Gilin.
Oui, c'est ça, des personnes pas très allongées.
Mais le problème s'est surtout posé quand j'ai dû prendre une série au vol, la série des maisons préfabriquées. Alors le problème s'est posé tout à fait parce que j'avais le souvenir d'une reprise dans les journaux que je lisais tout juste avant la guerre. Une série avait été reprise par un autre dessinateur. Je ne sais pas, c'était Ramener le vivant, je ne sais pas, c'était quelque chose comme ça. Et ça m'avait fait... J'étais très sensible au style du dessin, sans le savoir. Et ça m'avait fait une impression très moche. Et là, je ne voulais pas faire la même chose. Et je voulais essayer que le lecteur ne s'aperçoive pas du changement de style. Mais c'était en vain tout de même, parce qu'il a dû s'en apercevoir. Parce que j'ai vraiment repris au cours, non seulement en cours de parution, mais au cours d'une page.
Mais ce que je ne comprends pas, alors, la maison préfabriquée...
Oui.
Tu l'as fait quand, par rapport à
au tank ?
Ouais.
Nettement après, hein.
Nettement après ?
Oui, après. Oui.
Et par rapport à l'héritage, qui est le deuxième, là, ici ?
Ah, l'héritage était déjà bien en train, hein.
Je comprends pas. Gilin avait envisagé de continuer parallèlement à toi ?
Non, pas du tout. Mais Gilin avait continué dans le journal pendant que je faisais le tank comme essai, comme bord d'essai, comme épreuve, quoi.
Mais tout ça est quasiment simultané, alors.
Oui. Mais moi, une fois que j'ai commencé ceci, j'ai continué, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué.
Il y a eu de l'interruption dans la maison préfabriquée ?
Il n'y a pas eu d'interruption, non. Parce que j'ai dessiné, j'ai pris ça en cours de route, j'ai dessiné, il a livré sa planche, et moi j'ai livré la suivante.
Alors là, nettement, tu as essayé de garder le style de Gilin.
Oui.
Mais c'est marrant comme c'est complètement... Regarde ce cou, ces coups démesurés, ces jambes complètement démesurées. On dirait que tout est allongé, tout est étiré là-dedans.
Oui, parce que ça arrivait à Ginet. Ginet avait une caricature un peu extrêmement décorative et un peu irrégulière. C'est-à-dire, il changeait les personnages en cours de route d'une façon étonnante. Il était très audacieux comme caricature. Moi, je ne suis pas audacieux du tout. Et il faisait le coup. Si j'ai fait le coup plus long ici, c'est qu'il le faisait dans ses...
Et tu t'es forcé à le faire.
C'est dommage que nous n'avons pas ici un album de Ginet pour comparer, parce qu'il y a un album Spirou Ginet.
Oui.
Il s'appelle comment encore, Spirou et l'aventure, ou juste comme ça.
Alors ça, c'est paru dans le journal, donc.
Si, c'est paru dans le journal. Le temps n'a jamais paru dans le journal.
C'est paru dans Spirou en 46.
C'est paru dans Spirou, oui.
46-47. C'était après.
Mais ne me demande pas les dates.
Et attends, Radar, ça vient après.
Oui, Radar, ça vient après. Il y a l'héritage qui est cette espèce d'histoire de pygmée, là, c'est ça?
C'est ça.
Je cherche à te montrer la vieille dame atroce dont on m'avait dit qu'elle était. C'était vraiment trop vilain.
C'était une tête de sorcière?
C'était une tête de sorcière. Je ne la trouve. Je croyais que c'était dans cette série-ci. Non, je sais.
C'est pas dans Radar le robot?
C'est dans Radar le robot, oui.
C'est pas celle-ci, là?
Si, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, je me souviens. Il y a ce personnage qui a une jambe de bois, qui est poursuivi par Spirou, et qui introduit malencontreusement sa jambe de bois dans la queue du parquet.
Ouais.
Et il casse sa jambe de bois.
C'est l'héritage, ça, hein?
Oui, c'est l'héritage. Alors, Spirou, ici, a un pied de piano de table, etc., et lui refait une jambe de bois. Et ils repartent à zéro.
Ah oui.
Et alors, Doisy va lui dire, c'est bien, j'aime bien ce passage, parce que... On voit qu'ils ont une moralité, ils jouent, ils sont chics, quoi.
Et tu ne trouves pas que c'est un peu un très typiquement Tex Avery, ça, que tu ne connaissais pas à l'époque?
Que je ne connaissais pas, mais c'est en effet un peu loufoque. Chez moi, c'est assez curieux. D'ailleurs.
Et que ton personnage ressemble à Philochard, là, c'est exprès?
Ah, Philochard, non, je ne crois pas. J'ai très peu fréquenté les Pieniclés.
Mais ce coup de girafe Fantasio, il l'a gardé longtemps, hein?
Ben, ils en prennent loin. Je crois que ça a dû diminuer avec le temps, évidemment.
Ça ne te posait pas un problème d'essayer de rester dans ce style-là?
Si, mais le problème n'a pas duré, hein, parce que on ne peut pas se forcer longtemps.
J'ai appris par après, avec l'expérience, que tout dessinateur devrait dessiner ses propres personnages. Je sais bien que j'ai dessiné Spirou et Fantasio pendant un peu plus de 20 ans, et dans l'enthousiasme de la jeunesse, évidemment, tout son entreprend n'importe quoi. Mais je me suis rendu compte que ça m'a posé bien des problèmes, et ça me posait des problèmes même inconsciemment, et que j'étais surtout heureux quand je dessinais les personnages que je créais moi-même, parce qu'ils venaient de mon fond à moi, de mes souvenirs, de mon enfance, ou de mes, disons, fantasmes. Il est difficile de parler 10 minutes actuellement sans parler de fantasmes, mais je crois que c'est un peu ça tout de même. Alors les personnages concrets, c'est un peu comme de la littérature. Bon, est-ce que vous voyez un romancier s'emparer du personnage d'un autre et le continuer? C'est assez rare. Il y a uniquement des raisons commerciales quand ça se passe, mais je n'en vois pas d'autres. Alors je crois que chacun doit, s'il veut s'exprimer, c'est aussi un de ses mots très à la mode, s'il veut s'exprimer, mais s'il veut réellement être heureux en créant, eh bien, il doit faire ses propres personnages, quitte à passer plus de temps à les imposer. Évidemment, c'est un merveilleux pied à l'étrier, hein. On vous donne tout à coup le personnage principal d'un journal, comme ça. Bon, si vous ne mourrez pas de frousse ou de trac, ça va très bien, et vous êtes lancé dans le métier. Et du jour au lendemain, au lieu d'être un petit dessinateur inconnu, vous devenez le dessinateur qui fait Spirou, le dessinateur qui fait un tel, etc. Mais je crois que le système est mauvais. Je crois que, bon, je sais qu'il est beaucoup pratiqué en Amérique, par exemple, mais ce n'est pas une raison. Je crois que chacun devrait dessiner ses personnages et faire sortir ce qu'il a dans son imagination.
Il y a des gueules et des caricatures, aussi bien dans l'héritage que dans Radar le robot, qu'on aurait très bien pu voir dans Lucky Luke aussi, à l'époque.
Ah, je ne sais pas, mais
regarde, par exemple, un type comme ça, là, on aurait bien pu le voir dans Lucky Luke.
Oui.
Celui-ci, là, cette espèce de vieux bonhomme. Qui...
Ah oui, ça, c'est fait d'après mon père. Ça ressemble à une caricature de mon père.
Ah bon? C'est dans quoi, ça? Ils ont préfabriqué?
Non, c'est dans
l'héritage.
L'héritage.
Il s'est reconnu là-dedans? Ton père?
Je ne sais pas, je ne crois pas lui avoir jamais montré. Donc.
Il y en a d'autres comme ça?
Des caricatures personnelles?
Oui.
Oui, il y en a deux, trois. Oui. Ici, il y en a une. Ça, c'était un copain, à moi.
Et ça, c'est l'héritage.
C'est ça? L'héritage. Il intervient dans plusieurs. Ici, il est en mauvais.
Les deux affreux, là?
Oui. Un des deux affreux, c'est une caricature personnelle. C'est un copain à moi. C'est un...
34, le pilote.
Oui.
C'est drôle, d'ailleurs, parce qu'on sent un peu...
Oui,
on sent la différence entre une tête est inventée ou quand elle s'inspire de quelqu'un.
Oui. Et alors, il joue un rôle assez abominable plus tard. Voilà encore le pilote. Et ça, c'était assez ressemblant, le pilote.
Et ça, c'est un genre que tu as abandonné relativement vite, le
caricaturer des têtes. Oui, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas doué.
Alors que c'est un genre dans lequel a excellé Maurice aussi bien que Tibet.
Ah oui. Et...
Robin a fait un peu ça, mais moins quand même.
Oui, il l'a fait moins, parce que son histoire s'y prête moins. Uderzo a fait ça avec une facilité remarquable. Il a fait Rému, il a fait divers acteurs.
Mais on a oublié de parler au début de l'histoire. Quand tu as hérité cette série de Gillin, c'était un groom, déjà.
C'était un groom,
il a
oui.
été inventé comme ça.
Mais je crois qu'il ne fonctionnait plus comme groom du tout. Hein. Les aventures que Gillin avait dessinées, il n'y avait pas de...
Mais il fonctionnait déjà comme journaliste, reporter ou pas?
Je ne sais pas, je crois.
Chez toi, qu'est-ce qu'il est au début?
Je ne m'en suis jamais préoccupé. Il est là comme ça, et il est là comme ça pour vivre des aventures. Il est...
Habillé en groom,
oui.
Et ça t'a pas choqué, ça, au début? Quand on t'a fait reprendre ça, tu t'es pas demandé, mais pourquoi il est groom? Pourquoi il est habillé en groom?
Je me le suis demandé, mais je n'ai pas poussé plus loin. Ça ne m'a pas tourmenté.
Oui.
Au-delà, quoi. Ça me...
Si on y réfléchit, c'est quand même...
Oui, mais je n'en réfléchissais pas très, très souvent.
Et que tes lecteurs, enfin... Moi, quand j'étais petit, j'ai accepté le fait qu'il était groom sans jamais me poser de questions.
Oui, oui.
C'était évident pour tout le monde. En fait, son habit n'avait qu'une importance secondaire.
D'autant plus que déjà, quand je l'ai reçu, un habit de groom était une histoire qu'on ne voyait plus que d'une façon rarissime.
Oui.
Lorsque Numa Sadoul est venu nous apporter les cassettes de ses enregistrements mythiques, on en a profité pour ouvrir quelques micros autour d'une table ronde avec Numa Sadoul, Isabelle Franquin et Philippe Capard.
C'est pour ça qu'il s'est contorsionné aussi quand il a repris Spirou et Fantasio, pour qu'on ne voit pas trop de différence entre Jigé qui précédait et lui.
On n'en voit pas.
Mais lui-même, quand il en parle, il s'auto-flagelle. Oui. Il se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai simplement voulu copier exactement ce que faisait... Enfin, c'était un vrai souci pour lui.
Oui, c'était un vrai souci. Mais je crois, en fait, ce qui était assez amusant, quand on le connaissait bien, c'est qu'il avait les possibilités d'être un faussaire.
On le voit déjà avec tous les personnages secondaires.
Oui, qui figurent sur des posters à la rédaction. On lui demande, parfois, je lui demandais, oh, tiens, tu ferais un Snoopy sur le poster, dans le prochain gag. Il faisait un Snoopy, il a fait un Ricochet, il pouvait faire des Schtroumpfs,
un Flagada. Il a fait des couvertures pour Peyo, pour donner un coup de main à Peyo.
Absolument.
Aussi, la couverture de La Flûte à ses Schtroumpfs, le film.
Tout à fait.
C'est un dessin en couleur de Franquin.
De Franquin, et il a fait des dessins aussi pour des petits livrets qui étaient
à l'époque de La Flûte à ses Schtroumpfs, il a fait des couvertures.
Oui, tout à fait.
Quand on regarde bien, on voit que c'est du Franquin.
Oui, on voit ça à un pli de vêtements, à une expression.
Les faussaires sont des dignes hérités de ton père. C'est ça que tu nous expliques.
Et on parlait de Spirou, de Jigé, mm-hmm. Et c'est vrai que la transition se fait de façon très douce,
ouais.
Et que c'est difficile de voir la différence, mais c'est propre à Jigé, parce qu'il a fait pareil avec Moebius, avec Giraud. Quand il a repris en cours de route un épisode de Blueberry, On ne voit pas la différence, mais là, c'est l'inverse. C'est Gilin qui a repris le trait de son élève, quand même, puisque c'est aussi, il lui avait appris beaucoup de choses. Mm-hmm. Et ça prouve là, d'ailleurs l'universalité de Joseph Gilin dans tous les styles et dans tous les domaines.
Oui, oui, une universalité qui est insuffisamment reconnue à mon goût, vraiment. Parce que c'est quelqu'un dont on parle peu et qui mérite une place beaucoup plus considérable qu'il en a, ne fût-ce que par la générosité dont il a fait preuve avec tous les gens qu'il a côtoyés.
Ah oui, absolument.
Jigé. Ah ben Jigé, c'est merveilleux, évidemment. C'est un grand frère, c'est type d'une générosité étonnante. Et c'était vraiment le vrai début du métier pour moi, c'est grâce à lui, évidemment.
Vous l'aurez compris, il est absolument impossible de dissocier la carrière de Franquin de celle de Joseph Gilin, alias Jigé. À bientôt pour de nouvelles aventures.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries? Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Squeak.
Boum. Ton.
De gauche.
Garanti pur schlick.
Quelle merde.
Oh, quelle horreur ici.
Voilà. Maintenant, je vais nourrir mon chat. Je trouve que ceci est relativement réussi tout de même avec le moyen du bord, mais c'est relativement réussi. Parce que... Je plaide coupable.
On peut s'amuser avec des conneries.